La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Le 15 juin prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. L'occasion de nous pencher ce soir sur cette problématique. En 2016, près de 2000 cas de maltraitance ont été dénoncés en Wallonie, 757 à Bruxelles. Et c'est la maltraitance psychologique qui est la plus répandue, une maltraitance qui n'est pas toujours intentionnelle. Certains proches, par exemple, veulent faire bien, mais finissent par prendre des décision pour la personne âgée, sans la consulter, sans lui demander son avis. On va discuter dans notre émission ce soir des différents types de maltraitance, mais surtout des pistes de solutions pour mieux prendre en compte le ressenti de la personne âgée, pour mieux l'écouter. Et on va en parler avec nos deux invités. Alors tout d'abord, Marie-Pierre Delcourt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice d'Inforhome, donc une SBL dont l'objectif est de promouvoir le bien-être des seniors en région bruxelloise. Et à vos côtés, Dominique Bigneron, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes directeur du domaine des Essart, une maison de repos et de soins située dans la province de Namur qui respecte l'autonomie des personnes âgées. Alors j'ai dit maison de repos et de soins, mais je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, peut-être plutôt maison, lieu de vie, on pourrait appeler ça comme ça?
Oui, bah je trouve que maison de repos et de soins, c'est tellement réducteur en fait, comme si on ne faisait que se reposer, se soigner. La dénomination en elle-même, déjà, laisse transparaître un regard particulier sur la vieillesse qui est loin d'être notre réalité.
D'accord, ben vous nous en parlerez dans un instant. Alors peut-être juste avant de justement parler d'initiatives qui donnent plus la parole à la personne âgée, Marie-Pierre Delcourt, revenons vraiment sur la question de la maltraitance. Cette maltraitance, elle peut revêtir différentes formes. Est-ce qu'il y a vraiment une définition de la maltraitance? Est-ce qu'on peut vraiment quand même définir cela?
Oui, en effet. Donc là, effectivement, plusieurs instances se sont penchées sur la question et nous, en fait, on fait référence à la définition que le Conseil de l'Europe a donnée de la maltraitance et qu'il a définie comme étant tout acte ou omission commis par une personne qui porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une personne, ou qui compromet gravement le développement de sa personnalité et nuit à sa sécurité financière. D'accord. Donc vous voyez que c'est extrêmement large.
C'est très large. Alors je le disais en introduction, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire, c'est pas la maltraitance physique qui arrive en premier dans les plaintes, elle est même assez loin, mais c'est plutôt la maltraitance psychologique, psychique et la maltraitance financière.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il est commun de penser que la maltraitance physique est celle que l'on rencontre le plus. Et dans notre pratique, c'est totalement l'inverse. Et comme vous dites bien, c'est vraiment essentiellement la maltraitance psychologique qui évidemment est tout à fait sournoise. C'est une maltraitance en effet qui ne laisse pas de traces, j'ai envie de dire. C'est une maltraitance qui bien souvent est tue, dont on ne parle pas, dont on parle peu, ou parfois dont on parle mal. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait énormément souffrir. Oui.
Alors, cette maltraitance, si on reprend de nouveau les chiffres, on voit qu'il y a quelques différences entre Bruxelles et la Wallonie. En Wallonie, 61% des personnes qui se disent victimes de maltraitance vivent à domicile, alors qu'à Bruxelles, on est plutôt à 3/4 des plaintes de personnes qui vivent en institution. Est-ce qu'il y a une raison qui peut expliquer cette différence?
Oui, c'est tout simplement une raison qui est liée à l'histoire de notre association. Donc, en réalité, c'est vrai que chez nous, à Inforhome, notre dispositif de lutte contre la maltraitance a été mis en place en 2009 dans le cadre de notre association Inforhome, qui, elle, est plus connue pour son expertise sur le plan des institutions pour personnes âgées à Bruxelles. Donc, fatalement, c'est plutôt par ce biais-là que les personnes vont nous contacter.
D'accord.
Mais dans notre pratique, nous constatons quand même que au lieu de risque de maltraitance, c'est bien le domicile.
C'est le domicile. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait moins de contrôle à domicile et aussi peut-être une peur de la personne âgée de, si elle dénonce, d'être placée en maison de repos.
Je pense qu'il y a différents éléments qui jouent, mais le premier élément, me semble-t-il, c'est que bien souvent, le domicile est un huis clos. La maison de repos, comme l'a dit M. Bigneron, c'est un lieu de vie. C'est un lieu qui est ouvert sur l'extérieur. C'est un lieu dans lequel rentre énormément de monde. C'est un lieu dans lequel il y a quand même énormément de prestataires, de différentes personnes qui vont et viennent. Le domicile est souvent un lieu extrêmement fermé, dans lequel se jouent aussi des relations familiales qui ont une histoire, qui ont effectivement des racines qui sont pas toujours faciles non plus.
Alors, il y a une autre enquête qui a été menée il y a quelques semaines par Solidaris, donc auprès de 450 personnes de 80 ans et plus. Et ces personnes, 42% de ces personnes disaient qu'elles refusaient d'aller vivre en maison trop peu, qu'elles voulaient absolument continuer à vivre chez elles. Est-ce que, Monsieur Bigneron, vous pouvez comprendre ces personnes qui ne veulent pas aller en maison trop peu, vous qui êtes vous-même directeur d'une maison trop peu?
Malheureusement, je dirais oui, madame, je le comprends, mais c'est mon combat de chaque jour. Je suis ici pour cela, c'est pour justement témoigner du fait qu'il y a d'autres possibles. Les témoignages, madame parle de maltraitance à domicile, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Mais il y a aussi de la maltraitance en maison de repos et de soins. Mais je pense que la première des maltraitances faites à l'adulte âgé est le fait qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur liberté. C'est quelque chose qui revient tout le temps, en fait. Et chaque fois, je suis chagriné si je participe à un congrès et que j'entends un intervenant décrire la maison de repos comme étant un lieu où on prive des vieux de liberté. Chaque fois, ça me fait de la peine parce que je sais que ça peut être totalement différent. Je le vis au quotidien, mais je peux comprendre. Et donc, ça va pas être évident à changer ça, parce que là, on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du regard de la société sur ces adultes très âgés ou très âgés et désorientés. Et donc, il y a changer les mentalités, changer les regards, c'est bien plus compliqué que juste quelque chose qui est de l'ordre, que sais-je moi, du matériel ou de la logistique. Non, là, c'est vraiment le regard qu'il faut changer.
En quoi, justement, votre initiative est différente? En quoi la vie au domaine des RIESSR est différente de ce qu'on peut vivre dans d'autres maisons de repos plus classiques?
Mais tout d'abord, madame, je me revendique de l'appartenance à des valeurs humanistes laïques. Et donc, mon employeur est Solidaris. Vous citez l'enquête qui vient d'être faite ici récemment dans le baromètre. Il ne me paraît pas possible d'accompagner des adultes âgés autrement que comme cela. Et quand je dis comme cela, je veux simplement dire en respectant leurs décisions, en étant d'accord et fédéré, c'est important. On peut parler des procédures d'admission par la suite, parce qu'elles ont toute leur importance. Les gens qui viennent travailler, vivre, étudier au domaine valident une charte de valeurs dans lesquelles le principe d'autodétermination. Donc, nous pensons que seuls nos adultes âgés savent ce qui est bon pour eux. Dès lors, nous ne sommes là avec nos compétences, avec nos spécificités professionnelles, nous ne sommes là que pour les accompagner dans leur choix. Même si parfois on peut se dire que ce choix n'est pas le choix que nous aurions posé. Mais ils sont libres et adultes jusqu'au bout. Et donc, une fois ce regard posé et des choses dites, comme je vous l'ai dit, donc je m'adresse, moi, dans une procédure de préadmission, je ne m'adresse qu'à l'adulte âgé qui un jour va venir vivre au domaine. Et je lui dis cela, je lui dis, chez nous, vous allez conserver vos libertés. Et le simple fait de dire cela, je peux vous dire que j'ai ici, vraiment tout récemment, nous avons admis une dame, mais elle parlait de la liberté, mais tellement bien. J'appelais mes collègues pour dire, mais venez, écoutez comme elle dit, comme elle a besoin d'être encore libre. Et cette dame est repartie. Je lui ai dit, vous n'êtes pas prête maintenant. Mûrissez ce que je viens de vous dire, vous ne perdrez pas vos libertés. Et 15 jours, 3 semaines après, elle m'a sonné en disant, bon, ok, j'ai réfléchi, je pense que je vais essayer. Elle est là maintenant. Voilà, elle vit sa liberté, mais évidemment, elle boit son verre, elle a son chien, elle vit tout simplement, elle continue de vivre.
Mais donc l'idée, c'est qu'en fait, les personnes peuvent vivre un peu comme si elles étaient à domicile, sauf qu'elles sont encadrées si besoin, soignées si besoin, ou si elles le demandent.
Oui, mais c'est le si besoin qui est intéressant dans ce que vous dites. En fait, nous avons eu, dès l'ouverture de cette maison de repos et de soins, nous avons eu, encore une fois, guidé par mes valeurs, ça me paraissait évident, l'idée que cette maison n'était pas un hôpital décentralisé. Et d'ailleurs, le décret qui organise la vie en maison de repos le dit, c'est quelque part un hôtel où on délivre des soins quand ceux-ci sont nécessaires. Et ils doivent être de qualité. Donc pour tout ça, on est bien d'accord. Mais le soin ne doit pas être le fil rouge. C'est la vie qui doit être le fil rouge.
Alors, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite, c'est que parfois, on peut ne pas être d'accord avec la décision qui est prise par la personne âgée, mais il faut le respecter et c'est à elle de prendre cette décision. Est-ce que il y a des cas de maltraitance, Marie-Pierre Delcourt, qui sont justement cet excès peut-être de bien-traitance? On veut faire bien, les proches, le personnel soignant veut faire bien, entre guillemets, pour la personne âgée, mais du coup, prend des décisions sans demander l'avis de la personne?
Mais oui, effectivement, je pense qu'on est tout à fait là-dedans. Dans la majorité des situations. Et donc, en tout cas, nous, notre approche de la maltraitance est une approche qui ne se veut absolument pas stigmatisante. Donc, nous, on lutte contre ces clichés qu'il y a un auteur méchant, le vilain bourreau et la pauvre victime. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et donc, c'est vrai qu'on est souvent dans des situations de maltraitance dans le cadre d'une relation. Donc, une relation, ça suppose déjà deux personnes. Et donc, dans le cadre d'une relation qui, à un moment donné, est en souffrance. Une relation qui dérape. Et bien souvent, justement, il y a dérapage dans un énorme souci de protection. Donc, pas toujours, évidemment. Il ne faut pas non plus voir les choses de manière naïve. Mais dans énormément de situations, en tout cas, la volonté de protéger la personne va être de nature à la faire souffrir. Mmh. Parce que, précisément, cette volonté de la protéger va entraîner des mesures privatives de liberté, comme dit monsieur. Et donc, c'est vrai que si l'individu veut rester l'individu qu'il est jusqu'à la fin de sa vie, il doit avoir une part de liberté. Donc je pense qu'on réinterroge, en réinterrogeant tout ça, on réinterroge également tout le fonctionnement de notre société. On vit dans une société qui ne veut prendre aucun risque. Et donc ici aussi, nous essayons d'avoir de tout ça une approche systémique. Il y a en effet la volonté de la personne et il y a aussi la volonté de tous les proches qui l'entourent. Et donc dans bien des cas, des mesures de protection sont prises, justement aussi pour répondre aux souhaits des familles qui, évidemment, sont terriblement culpabilisées de recourir à des tiers pour offrir des soins à leurs parents. Ça les met en constat d'échec, ça les met en difficulté, ça les met dans une profonde culpabilité. Donc, ils vont exiger aussi de la part de ces professionnels qu'il n'y ait aucun risque. Mais si on enlève tous les risques, on arrête la vie.
Oui, c'est ça. Vivre, si on enlève tous les risques, on enlève aussi toutes les libertés. Et c'est là que du coup, dans votre maison de repos, dans votre lieu de vie, Monsieur Bigneron, il y a des risques. C'est-à-dire que la personne, finalement, si elle veut aller se balader en pleine nuit, elle peut. Si elle veut boire son verre, alors que c'est peut-être pas conseillé nécessairement par le médecin, elle peut.
Je vous parlais tout à l'heure de maison de vie, et donc bien sûr, la vie une fois installée. Eh bien, et la liberté vécue, ça ouvre la porte au risque. Nous avons inscrit dans cette même charte qu'il n'y avait de pire risque que celui de ne pas en prendre et que vivre ces risques jusqu'au bout, c'était encore être debout et vivant jusqu'au bout. Donc nous pensons que le risque fait partie intégrante de la vie et tous nous sommes amenés, nous sommes amenés à en prendre tout au long de la vie. Le regard de la famille, c'est quelque chose qui est à la fois important, mais... quand je rencontre une famille et un futur habitant, c'est au futur habitant que je m'adresse. C'est lui qui va vivre au domaine. Et donc, je le fais parfois un peu, peut-être en étant un peu provocant, en disant cette famille, mais écoutez, c'est lui qui va décider. Et la famille, parfois, a un peu de mal, au début, elle est un peu ébranlée. Mais si je dis, écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez votre papa. Vous le connaissez mieux que quiconque. Pensez-vous que votre papa, un jour, aurait souhaité vivre 6 mois de plus en étant contentionné sur une chaise. Et ça fait mouche en fait. Mmh. Les familles sont interpellées par ça, les frères, les sœurs se regardent, et ils disent mais non, papa il était à la campagne, il était dans les bois toute la journée, il était en promenade tous les jours, il était libre comme l'air, donc non, il n'aurait pas voulu ça, vous avez raison. Et est-ce qu'il prenait parfois des risques? Oui, tout le temps en fait, tout le temps. Et bien voilà, donc vous avez la réponse à vos questions. Mais je pense que lorsque les choses sont dites, c'est plus facile. Et rappeler les valeurs d'une institution, ça c'est aussi quelque chose qui me paraît moi extrêmement important et symbolique. Bon nombre de futures familles me téléphonent, me disent « voulez-vous prendre en inscription mon papa, ma grand-mère ?» Bon. Et je leur dis non. Je veux vous rencontrer, je veux vous parler de nos valeurs, parce que on va toucher à l'intime. Et donc vraiment, c'est important que vous veniez et qu'on puisse vous en parler. Oui, mais ailleurs, on prend les inscriptions. Je dis oui, mais pas ici. Au domaine, on ne les prend pas. Donc je dois vous voir, je dois vous parler de notre projet. Et je pense que les familles doivent demander quelles sont les valeurs, qu'est-ce que je vais vivre ici, qu'est-ce que mon parent va vivre ici avec vous. C'est quoi le fondement de vos valeurs? Et ça, c'est malheureusement souvent absent. Le prix, le prix est la question essentielle pour les familles, parce que les maisons de repos, c'est toujours trop cher. Et donc voilà, elles s'arrêtent parfois simplement au prix, alors que les valeurs, c'est pour moi l'essentiel.
Mais comment expliquer que des initiatives comme celle de M. Bigneron ne sont pas plus répandues, Mme Delcourt, vous qui encadrez, au niveau bruxellois les institutions de repos et de soins, comment expliquer que ce ne soit pas plus répandu et que ce ne soit pas finalement la norme, ce qui se passe
Alors, je vais vous dire que nous, justement, nous voyons quand même au fil du temps, puisque ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes sur le terrain maintenant, nous voyons quand même de sacrées évolutions par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que des initiatives telles que celles que dirige Monsieur Bigneron, il y en a trop peu, ça c'est clair. Et donc, bravo en tout cas à ceux qui mettent ces initiatives sur pied et qui les font vivre au jour le jour, parce que c'est quand même un réel défi. Maintenant, dans les institutions, nous rencontrons quand même de plus en plus le souci, justement, de définir des valeurs qui vont dicter l'organisation de l'institution. Et donc ça, on voit quand même se démener dans le milieu des professionnels de plus en plus de personnes qui sont terriblement conscientes aussi des enjeux qui se jouent à ce niveau-là et qui déploient des efforts, mais qui sont vraiment des efforts indicibles et indescriptibles pour mener ce combat. Le problème de l'institution, c'est que c'est un combat difficile parce que en soi, l'institution, quel que soit son nom d'ailleurs, qu'elle s'appelle hôpital, qu'elle s'appelle maison de repos, qu'elle s'appelle maison de repos et de soins, qu'elle s'appelle école, peu importe, le risque d'une institution, c'est la dérive du totalitarisme. Et donc là, en effet, ce qui fait mal actuellement, c'est que beaucoup d'institutions fonctionnent centrées sur l'institution, au lieu d'être centrées sur la personne. Et donc, comme disait monsieur tout à l'heure encore, c'est vraiment changer le regard. Mmh. Et donc, l'institution doit apprendre à se voir elle-même autrement, pour organiser autrement ce fonctionnement. Et donc là, quand même, nous qui sommes à une posture d'observatoire également sur Bruxelles, nous observons des souhaits de changement. Alors évidemment, ce sont des révolutions qui ne vont pas se faire du jour au lendemain, mais il y a des choses qui sont en marche. Et c'est quand même... Il me tient à cœur de le souligner, parce qu'on rencontre quand même dans le secteur maintenant des personnes, en effet, qui sortent du lot et qui ont cette volonté de mettre en place des choses différentes. Je pense que actuellement, on est à une période de notre monde où, à beaucoup de niveaux d'ailleurs, beaucoup de modèles qui existaient touchent maintenant à leurs limites. Il faut modifier les modèles. Et c'est le cas, en effet, pour la maison de repos.
Oui, et c'est vrai que, enfin, peut-être la même question, pourquoi est-ce qu'à votre avis, Monsieur Bigneron, il n'y a pas plus d'initiatives comme la vôtre? Est-ce qu'il y a des maisons qui viennent, des directeurs de maisons de repos qui viennent voir un peu ce que vous faites, qui s'inspirent de ce que vous faites?
Il y a deux choses dans votre question, voire trois. Vous avez terminé, c'est ce qui m'a touché le plus quand vous parlez. Est-ce qu'il y a des directeurs qui viennent? Eh bien, la réponse est quasi non. Des directeurs ne viennent pas. C'est bien ça le drame. Des équipes viennent tout le temps. Chaque semaine, pratiquement, nous avons une équipe en visite. Chaque semaine, nous avons une école en visite. Chaque semaine, je participe à une table ronde. Je fais des congrès, etc. C'est facile pour moi. C'est juste pour partager ce que je vis, sans autre prétention que de dire c'est possible. Voilà. Mais par contre, les directeurs viennent peu. J'ai des anecdotes cocasses. J'ai des équipes qui me visitent et qui me disent « Bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Notre directeur est désolé, mais aujourd'hui il ne sait pas venir, il est occupé. » Mais oui madame, mais moi aussi je suis occupé et pourtant je vous reçois. Je vais prendre ma journée pour vous recevoir et partager ce que nous vivons. Et si le directeur n'est pas là, en tant que directeur, moi je donne la direction, je donne le sens aux choses. Et donc je pense que c'est un poste clé. Il faut que la direction soit complètement partie prenante. Et la direction de la direction aussi. J'ai cette chance au sein de Solidaris. Voilà, le projet est le projet cadre de la structure. Et donc, on n'imagine pas encadrer autrement. Mais si les équipes seules ont une volonté de changement et que la direction n'est pas avec elles, ça ne marche pas, évidemment. Mais des équipes, j'en reçois toutes les semaines. Donc, je partage complètement à nouveau l'analyse de Mme Delcourt. Le monde est en marche. Le monde de l'hébergement va changer. Et ce qui est un peu, mais c'est souvent comme ça je pense, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va changer parce que les adultes âgés que nous accompagnons vont changer. Nous ne serons plus les vieux
d'hier,
hier, ni d'aujourd'hui. Oui. Nous allons être d'autres vieux que ceux-là. Et nous allons avoir d'autres exigences en termes de respect de notre autonomie décisionnelle, notamment. Pas que, mais notamment. Et donc, c'est par ça que ça va changer. Alors, on pourrait imaginer que voilà, les normes changent ou que le regard de la société change. Ça va prendre du temps. Mais on va nous obliger à changer parce que nos vieux vont changer et c'est très bien comme ça.
Marie-Pierre Delcourt, vous vouliez réagir ?
Mais moi, je voudrais rebondir sur la remarque de M. Bigneron qui note que peu de directeurs arrivent jusque chez lui justement pour se tremper dans cette ambiance et voir un petit peu ses expériences. Moi, je voudrais ici quand même souligner, on parle de maltraitance, on parle de souffrance, que beaucoup d'acteurs dans le secteur sont en souffrance. Et que nous notons aussi, bien entendu, la souffrance de pas mal de résidents par rapport à plein de choses, des équipes en place, mais également dans la fonction de directeur. Nous enregistrons et nous observons pas mal de difficultés également. Il ne faut pas oublier que le directeur, il n'est pas seul à tenir le guidon et qu'il y a bien souvent un pouvoir organisateur. Donc, il ne faut pas oublier non plus que, dans bien des cas, on a une direction qui a des valeurs, qu'il a envie de soutenir ses équipes de personnel dans la défense et la promotion de ses valeurs, qui veulent effectivement être très proches de ses résidents et de développer vraiment la qualité de vie de ses résidents. Mais malheureusement, force est de reconnaître que les pouvoirs organisateurs ne partagent pas toujours ces mêmes valeurs. Et donc là, alors, on se rend compte qu'il y a des conflits énormes qui se posent alors dans ce poste de direction. Et ça rejaillit évidemment sur tout le monde. Ça rejaillit sur les équipes, ça rejaillit sur les résidents, sur les familles, sur tout le monde.
Alors, je voudrais aborder un autre point, c'est que, est-ce que pour les personnes qui sont désorientées, séniles, les cas de maladie d'Alzheimer, dans ce cas-là, on sait que c'est plus compliqué d'avoir un dialogue, d'avoir une vraie discussion. Est-ce qu'on peut quand même avoir une forme de, d'écoute et de discussion pour ces personnes-là? Comment faire pour nouer ce dialogue?
Mais oui, bien sûr. Donc, on a fait le choix au domaine aussi, au travers de nos valeurs humanistes, de se dire qu'un homme vaut un homme et que dès lors, il n'y a aucune raison de mettre à part une personne désorientée parce qu'elle aurait des comportements dérangeants. Ce qui sous-entend que des personnes bien orientées ne pourraient pas être dérangées par ces comportements, mais que d'autres entre désorientés le pourraient. Et je me révolte contre cette idée. À nous de faire, en professionnels que nous sommes, à nous de faire en sorte par notre générosité, par le cadre, par l'ambiance, par nos gentillesses, par nos gestes, par nos paroles, de faire en sorte que ces comportements dérangeants soient les moins dérangeants possibles. Et donc, nous avons fait le choix au domaine de la mixité totale. Donc, nos personnes bien orientées, là, nous avons actuellement 79 habitants, dont 35 à peu près sont désorientés. Et donc, tout le monde vit ensemble. Mais tout le monde vit ensemble avec beaucoup de difficultés. Mais c'est ça, la vie. Vous voyez, c'est pas plus facile au domaine que dans la vraie vie. Donc il y a des conflits de voisinage, il faut rappeler les valeurs, il faut rappeler... Et je peux entendre que quelqu'un me dise, voilà ce que vous me proposiez, je pensais pouvoir le vivre, mais c'est pas possible pour moi, je vais voir ailleurs. Ça, je comprends très très bien, ça n'arrive pas. Mais à côté de ça, je dois redire les valeurs, je dois redire, mais vous avez fait le choix de la mixité des pathologies ici. C'est aussi... La force de cette mixité, c'est aussi de voir se développer des comportements solidaires entre bien orientés et désorientés, mais aussi l'inverse, entre une personne désorientée qui ouvre la porte à une personne bien orientée, mais qui marche difficilement et qui est avec une aide à la marche. Et le fait de vivre ensemble, mais c'est comme dans la vraie vie de nouveau.
Oui,
quand
ça.
On apprend à se connaître, on apprend à ne plus avoir peur de l'autre différent. Et donc ça, c'est évidemment un challenge, c'est compliqué, mais c'est tellement riche.
Madame Delcourt,
mais oui, je pense qu'il est grand temps d'apprendre à se positionner autrement et à voir, à regarder autrement les personnes qui présentent certaines difficultés, certaines pathologies. Et donc là, justement, il y a quand même actuellement énormément de choses qui se mettent en place au niveau de la formation du personnel pour les aider justement à acquérir des comportements adéquats pour l'accompagnement de ces personnes.
Et des méthodes aussi peut-être pour dialoguer, pour trouver en tout cas un espace d'échange.
Oui, absolument. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette approche de la validation où on essaie justement d'aller retrouver la personne désorientée dans l'espace où elle est au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau affectif. Il y a aussi ces approches justement, notamment la méthode Montessori dont on commence à parler de plus en plus actuellement, où donc là, on invite vraiment les personnes qui accompagnent des personnes désorientées à voir chez ces personnes, non pas leur perte, mais essayer de voir les capacités qu'elles ont encore, de manière à les aider à maintenir ces capacités et au contraire encore à les développer. Et on voit là des choses qui sont tout à fait extraordinaires.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission, mais je voudrais revenir sur une thématique qu'on n'a pas encore abordée et qui est importante aussi, c'est la question des aidants proches. Alors là, on est plutôt sur les personnes qui vivent à domicile. On sait que les aidants proches sont souvent isolés, eux aussi, et que dans les personnes qui se disent victimes de maltraitance à domicile, souvent elles sont victimes de maltraitance de la part de proches de la famille, mais que ces aidants proches sont souvent aussi eux-mêmes en souffrance et en difficulté. Comment est-ce qu'on peut les soutenir, les aider?
Oui, et ces aidants proches sont d'ailleurs eux-mêmes souvent extrêmement maltraités. Maltraités par la vie d'abord, parce que effectivement ce qu'ils vivent est loin d'être facile. Maltraités par les personnes qu'ils aident, bien souvent. Et maltraités par leur entourage, parce que souvent incompris. Et c'est vrai que le problème de l'aidant proche, au plus il avance dans son aide, au plus il s'investit dans l'aide qu'il accorde à la personne, au plus il a tendance à s'isoler sur lui-même, parce qu'il y a la fatigue, il y a le manque de temps, il y a la culpabilité, il y a le sentiment d'échec, il est souvent malheureusement animé de sentiments extrêmement difficiles. Donc je pense qu'il est urgentissime de veiller à ne pas laisser l'aidant proche seul et à veiller à ce qu'il y ait autour de lui des filets de sécurité, des moments de répit, des lieux de parole, des lieux d'information, bref, des espaces où il va pouvoir lui-même aller lui-même se déposer respirer, ouais. Pour respirer, reprendre de la force, reprendre de la sérénité et effectivement trouver à être accompagnant dans les meilleures conditions qui soient pour tout le monde.
Et il y a des associations qui aident d'ailleurs.
Mais oui, bien entendu, il y a des associations qui sont liées d'ailleurs à différentes maladies, entre autres. Il y a des associations qui existent. Il y a la SBL Aidants Proches qui fait un travail tout à fait remarquable. Il y a en effet énormément de choses quand même qui existent, qui sont peut-être malheureusement trop mal connues.
Oui, l'idée étant aussi d'intégrer un tiers aussi dans cette relation la personne âgée, l'adulte âgé.
Couper le huis clos.
Peut-être pour terminer, Dominique Bigneron, je lisais sur votre site internet, vous disiez les maîtres mots de votre lieu de vie, c'est respect, liberté, citoyenneté. Donc un peu comme finalement, effectivement, à l'extérieur, un peu comme partout ailleurs. Et pour vous, ça doit être le maître mot partout. Il faut arriver à étendre ce modèle. Et comment est-ce qu'on peut arriver à étendre ce modèle partout?
Mais j'essaye de convaincre, en fait, que ce modèle n'a rien d'exceptionnel, que nous ne sommes pas des gens exceptionnels. Nous sommes juste des gens ordinaires. Ce que nous vivons est de l'ordre du possible pour chacun, pour chaque institution, il suffit de le vouloir. Lorsque je reçois des équipes et qu'ils me soulèvent des problèmes d'organisation ponctuels qui empêcheraient, au domaine on déjeune à peu près quand on veut, entre 7h du matin et 11h30, mais tout simplement parce qu'on a un buffet. Et tout simplement aussi parce que nous avons une collègue formée qui accueille, et qui accueille avec le sourire, et qui installe, qu'il soit 8h, 9h, 10h ou 11h.
Donc certains sont en train de déjeuner pendant que d'autres prennent l'apéro, et ça ne pose de problème à personne.
Ça ne pose de problème à personne. Donc moi, lorsque je témoigne, je veux juste dire, c'est le regard qui doit changer, en fait. Le regard est essentiel. Tu es ce que je te renvoie. Donc si je te dis par mon regard, tu es un homme à part entière, pour peu que tu sois malade, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça l'essentiel, c'est l'homme que tu es. Si vous dites ça, mais les gens se comportent comme des hommes, qu'ils soient bien orientés ou désorientés. Et donc, et ça ne coûte rien. Donc, ça ne coûte pas plus de personnel, je pense même que ça en coûte probablement moins, parce que, comme madame le disait, les lieux sont apaisés. Alors, par rapport aux formations décrites, il faut rester prudent, il y a un commerce de la formation. Qu'il m'arrive de dénoncer. Donc je pense que des professionnels formés, tout simplement formés par leurs études, avec de bonnes intentions et dans un bon milieu professionnel, sont déjà capables de faire de grandes choses.
Et avec un nouveau regard.
Avec
en tout
du bon sens et avec un nouveau regard.
D'accord. En tout cas, merci à tous les deux pour nous avoir vraiment orientés vers ces nouvelles approches et cette autre manière de voir les personnes âgées. Alors, je voudrais quand même donner donner juste deux numéros de téléphone avant de terminer. Le premier, c'est le numéro de téléphone du CEPAM, donc le service d'écoute pour personnes âgées maltraitées, qui dépend donc d'un forum sur la région bruxelloise. Donc si soit vous êtes victime de maltraitance ou vous connaissez une personne qui peut être victime de maltraitance ou vous souhaitez avoir des informations sur cette question, vous pouvez former le 02 223 13 43. Donc 02 223 13 43. Donc ça, c'est pour Bruxelles. Pour la Wallonie, il y a le service Respect Senior. Vous pouvez le contacter au 0800 30 330. 0800 30 330. Et alors, une dernière chose, c'est que à un forum, vous organisez un colloque la semaine prochaine. Donc vous allez organiser un colloque qui s'appelle Attention fragile, protégée qui, pourquoi. Et donc, il aura lieu ce mardi 13 juin à la salle du Préel à l'ULB à partir de 9h. Voilà, merci à tous les deux, donc Dominique Bignereau, Marie-Pierre Delcourt, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 20h sur la première pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
Enquête de sens sur la première.